en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, l'invité de notre série L'Essentiel est aujourd'hui l'une des grandes figures de la cancérologie, le professeur Lucien Israël, qui a perpétué la tradition des grands médecins humanistes à la Jean Bernard, Jean Burger, Jean Delay, une espèce malheureusement en voie de raréfaction. Le professeur Lucien Israël, qui a été élu il y a plus de 14 ans maintenant, oui, c'était le 8 janvier 1987, à l'Académie des sciences morales et politiques. Monsieur le professeur, bonjour.
Bonjour, cher monsieur.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. La première question, dans votre itinéraire professionnel, dans votre carrière, quel a été, monsieur le professeur, jusqu'à présent, à vos yeux, le moment essentiel?
Eh bien, écoutez, le moment essentiel s'est déroulé très tôt, lorsque, au dernier semestre de mon internat des hôpitaux, je suis devenu interne chez le professeur Étienne Bernard, fils de Tristan Bernard, qui dirigeait le service de pneumologie à l'hôpital Laennec. Et ça conditionnait tout le reste de ma carrière. Alors, je vais vous dire ce qui s'y est passé. C'était donc un service de pneumologie et il n'y avait à l'époque aucun service de cancérologie à l'assistance publique de Paris. Dans aucun des hôpitaux, il y avait des instituts comme Villejuif et Curie, mais à l'APHP, Assistance publique hôpitaux de Paris, il n'y en avait pas. Donc je suis dans le service de pneumologie d'Étienne Bernard. Il a été très très gentil avec moi et m'a élevé dans la hiérarchie. Mais donc à l'époque, je traitais des maladies du poumon et notamment des tuberculoses. Et il y avait à l'époque, il venait d'y avoir, 3 médicaments différents actifs contre la tuberculose qui étaient la streptomycine, l'acide para-aminosalicylique et le rimifon. Et on donnait les 3 en même temps, moyennant quoi on arrivait à guérir des tuberculoses, et j'étais très heureux de pouvoir le faire. Mais dans ce service de pneumologie, il y avait aussi des patients atteints de cancer du poumon. Il n'y avait donc pas de service de cancérologie. Un cancéreux du poumon allait en pneumologie, un cancéreux de l'estomac dans un service digestif, etc. Et il y avait 3 médicaments de chimiothérapie qui existaient dans le monde entier, Andoxan, méthotrexate et fluorouracil. Et ce qu'on m'enseignait et qui était fait dans tous les hôpitaux, c'était que il y avait un tirage au sort fait par des biostatisticiens pour savoir lequel des 3 médicaments on allait donner aux patients. Et ensuite, on transmettait les résultats et l'idée était que, à travers toute cette confrérie de biostatisticiens, ils arrivaient à donner des chiffres d'efficacité. Tant pour cent pour un tel, tant pour cent pour un autre, etc. Bien. Et donc, nous étions obligés de nous confier à ce tirage au sort et puis de donner les résultats. Mais j'étais très étourdi par le fait qu'en tuberculose, on donnait les 3 médicaments à la fois et qu'on guérissait des malades. Par conséquent, j'ai pris la décision, sans demander à mon maître, parce qu'il aurait refusé, il observait les règles, etc., j'ai pris la décision d'administrer les 3 médicaments en même temps au cancer du poumon, en me disant, il n'y a pas de raison que si cette multiplicité, cette association de molécules est active contre la tuberculose, une même association d'effets anticancéreux devrait être efficace. Donc, j'ai pas tout de suite averti mon patron, professeur Étienne Bernard, mais j'ai commencé à les traiter et j'ai commencé à voir des réponses utiles. À l'époque, c'était évidemment des patients qui n'étaient pas opérables ou qui avaient récidivé après opération, parce que sinon, ils seraient pas dans un service d'ophtalmologie. Et donc, j'ai commencé à traiter mes cancers du poumon par les trois médicaments disponibles. Et j'ai un souvenir tout à fait particulier. Monsieur Étienne Bernard organisait une conférence mensuelle où il y avait des tas de gens qui assistaient. Et un jour, il avait invité une dame dont malheureusement je ne me rappelle pas le nom, mais une cancérologue qui travaillait à l'Institut du cancer de Villejuif, et il lui avait demandé donc de faire une conférence sur les cancers du poumon. Ce qu'elle fait, à la fin il y avait des questions, je me lève et je dis « Madame, pourquoi vous ne donnez pas les trois médicaments en même temps ?» Et elle me répond devant l'assistance comble « Jeune homme, vous avez l'esprit complètement gauchi. » Donc, Étienne Bernard a été très offusqué d'avoir un élève qui avait l'esprit complètement gauchi, mais évidemment, ça ne m'a pas fait changer d'avis, parce que je voyais qu'il y avait des résultats efficaces.
Et vous avez gardé votre secret combien de temps ?
Justement, à partir de ce moment-là, j'ai envisagé de publier les résultats. Et dans la Revue française de pneumologie, j'ai envoyé un petit article avec un titre modeste « Devrait-on modifier les traitements des cancers du poumon ?» en expliquant qu'en utilisant les trois, eh bien, on avait d'une part une augmentation des résultats positifs sur ces cancers et donc de réduction des images cancéreuses, etc. Et puis une augmentation de la durée de vie.
Et quelle a été la réaction de votre maître, alors, à ce moment-là ? Parce qu'il a découvert ça ?
Je lui avais déjà dit, mais enfin, je lui ai aussi montré le papier. Et il ne m'a pas empêché. Il m'a dit « continuez ». Mais j'ai été le seul, et ça a duré encore quelques années, à faire donc ce que nous avons appelé une polychimiothérapie.
Donc, c'était faire preuve de beaucoup d'audace dans ce milieu.
Oui, c'est ça. Mais enfin, en même temps, j'avais pas peur. J'étais complètement enterré dans ce que j'avais envie de faire. Et j'ai donc continué. Et puis, alors, j'ai osé envoyer aussi un article que j'ai écrit en anglais dans une revue américaine, une revue de cancérologie américaine. Alors, il s'est passé à partir de ce moment-là des choses intéressantes. En particulier, j'ai reçu une demande de recrutement par un groupe de cancérologie américain qui s'appelait Eastern Cooperative Oncology Group, ECOG. Alors, l'ECOG, c'était un groupe de chercheurs qui prenaient tous les cancérologues de la côte est des États-Unis, Eastern Cooperative Oncology Group. Alors, ils m'ont demandé de faire partie de leur groupe et de venir une fois par mois assister à leur réunion, à la discussion, etc. Ça coûtait relativement cher, mais bon, je me suis débrouillé, je ne pouvais pas avoir d'argent de la PHP. Mais j'ai donc fait connaissance avec une série de cancérologues américains et j'ai découvert d'ailleurs, parce qu'auparavant je ne lisais pas la littérature cancérologique, j'ai découvert que j'étais pas du tout l'inventeur de la polythérapie et qu'ils l'avaient déjà fait eux-mêmes. Mais enfin, nous avons donc fraternisé, échangé des données, etc. Et je suis resté pendant des années membre de ce groupe. Alors, la suite de ma carrière, toujours dans le domaine du cancer, un jour, mon maître Étienne Bernard a dû partir à la retraite et il fallait aussi qu'on se sépare, qu'on aille ailleurs. Le service n'allait pas garder les jeunes médecins qui étaient là parce que le nouveau patron allait venir avec son équipe, etc. Mais en même temps, j'avais pris de l'âge et je pouvais devenir chef d'un petit service. Et on m'a donné le service de Lariboisière, mais qui était le service de la consultation générale. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de lit d'hospitalisation, mais on recevait tous les patients qui, de l'extérieur, voulaient avoir un avis sur une pathologie, quitte à être ensuite adressés à un service ou pas.
Donc là-dessus, s'est greffé ensuite une très très brillante carrière.
Mais donc, j'avais des patients que je continuais à suivre à la ENEC. Alors, je leur ai dit, maintenant, vous viendrez me voir à Lariboisière. Et à Lariboisière, j'ai été obligé de faire une consultation clandestine de cancérologie où je recevais des patients et je leur donnais des médicaments, des patients donc qui n'avaient pas besoin d'être hospitalisés parce qu'ils allaient pas trop mal, mais qui, pour lesquels on ne pouvait pas arrêter le traitement, et je faisais des traitements clandestins en me ravitaillant comme je pouvais à la pharmacie hospitalière. Et je suis resté jusqu'en 1976 à la Riboisière dans cette situation.
Ce qui veut dire quand même que quand on regarde tout le début de votre carrière, vous avez fait preuve d'une autonomie formidable, et d'un courage et d'une...
Oui, je savais que j'étais en difficulté par rapport aux règles fonctionnement de l'assistance publique. Mais d'ailleurs, je vais y revenir parce qu'il y a eu un autre phénomène après. Mais bon, j'étais plutôt content de faire ce qui se passait, quoi. Et alors... En 1976, c'est à mon tour de prendre la direction du service de pneumologie, car j'étais toujours pneumologue, à l'hôpital Avicenne, à Bobigny, qui était l'un des hôpitaux les plus éloignés du centre de Paris, mais qui faisait toujours partie de l'assistance publique de Paris. C'est un service de pneumologie. J'avais des patients en cours de traitement à la Riboisière et ailleurs, donc j'ai pris ce service. J'ai naturellement continué à recevoir des patients qui avaient des problèmes pulmonaires, mais j'ai également continué à traiter des cancers du poumon, parce que tous ceux que j'avais traités antérieurement, ils m'avaient demandé où j'étais maintenant, donc j'étais à Avicenne, etc. Et puis ils m'envoyaient des amis à eux qui avaient un cancer du poumon, etc. Donc ça n'arrêtait pas. Au point qu'un jour, j'ai été convoqué par la directrice de l'hôpital d'Avicenne, qui m'a dit « Monsieur, vous nous coûtez trop cher avec vos médicaments et vous n'avez aucune raison de les donner parce qu'ils ne font rien contre la tuberculose, etc. Donc, je sais que vous traitez les cancers du poumon, mais vous n'avez pas à le faire. Donc, vous arrêtez. » Et j'étais absolument révolté. Je lui ai dit « Madame, si vous insistez, il y a un article dans le journal François demain. » Alors, elle l'a fermé.
Et donc, vous avez pu continuer.
Et j'ai pu continuer.
C'est quand même extraordinaire.
Les choses qui se sont passées, donc, du point de vue hospitalier.
C'est formidable comme démarche, quand même. Qu'est-ce qui vous paraît essentiel à dire aujourd'hui ? Une seule chose, bien sûr, hein, monsieur le professeur, sur la cancérologie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui.
Écoutez, j'aimerais...
Vous voulez continuer sur le premier point ?
Oui, je voudrais continuer sur le premier point. Allons-y. Si c'est possible. Oui.
Allons-y.
Donc, je dirigeais l'hôpital Avicenne, et ce service, qui était un service de pneumologie, est devenu en douce un service de cancérologie générale. Et c'est au cours de mon séjour à Avicenne que j'ai un jour découvert quelle était l'histoire et la signification du cancer dans l'évolution de la vie sur Terre. Et je vais vous dire ce qu'il en était. Naturellement, je lisais tout ce qui était lisible dans mon domaine et dans d'autres de la médecine. Et un jour, je lis la découverte d'un bactériologiste français qui avait publié ça dans un journal scientifique français et il avait découvert comment les archéobactéries, c'est-à-dire les premiers microbes il y a 3 milliards et demi d'années à la surface de la Terre, s'étaient organisés pour pouvoir survivre à tous les changements du milieu qui s'étaient succédés. C'est une découverte qu'il a faite lui, il aurait dû mériter un prix Nobel, mais il ne l'a pas eu. Et il avait révélé qu'il y avait un groupe de 5 gènes qui, en cas de lésion, se réveillaient alors qu'ils étaient normalement silencieux, de façon à permettre à une cellule abîmée de se donner une succession, une descendance, plutôt que de s'éteindre.
Donc c'est une opération de survie, en fait, le cancer.
Exactement. Non, alors ça, c'était la bactériologie, n'est-ce pas ? Mais quand j'ai lu ça, j'ai été très frappé. Je me suis dit, c'est aussi l'histoire du cancer, manifestement, puisque ce sont des cellules qui ont été lésées et qui se multiplient encore plus rapidement que les cellules normales, plutôt que de s'éteindre. Alors, j'ai été consulter un ami généticien, dont hélas, je ne me rappelle plus le nom, mais qui était un grand professeur de génétique à l'époque, dans les années 70 en lui disant « Vous devriez lire ce travail d'un bactériologiste et me dire ce que vous pensez des gènes dont il parle, est-ce que nous les avons, etc. » Et il m'a convoqué quelques jours après pour me dire « En effet, ces gènes, nous les avons aussi. » Et par conséquent, vous avez tout à fait raison de croire que c'est à cause de leur réveil en cas de lésion que se caractérise et se développe un cancer. Alors, j'ai envoyé à ce moment-là un article à une revue américaine qui s'appelait « The Journal of Theoretical Biology ». C'était déjà bizarre comme titre, « Journal de biologie théorique ». Un article en américain en disant « Eh bien, voilà ce que je viens de découvrir, et c'est pas moi, c'est un bactériologiste qui a découvert la chose. Le cancer, c'est ça, c'est la mise en œuvre par la nature d'un système génétique qui permet à des cellules lésées de se donner une dépendance conservant la lésion plutôt que de mourir. » Et ils l'ont publié, et j'ai reçu à ce moment-là des tas de lettres d'Américains dont je connaissais certains et que d'autres je ne connaissais pas, mais enfin, mais qui étaient heureux de comprendre ce qu'était un cancer, quoi. Et c'est ce donc à quoi j'ai participé, sans m'en rendre compte tout à fait, mais bon, c'est les histoires. Ça se passait un petit peu avant les années 80, quoi. C'était bon.
Ce qui veut dire, pour le grand public, ça veut dire que le cancer, c'est pratiquement un être vivant, qu'on peut le soigner, mais l'éradiquer, ça n'a pas de sens.
Je vais y venir. On peut éradiquer un cancer chez un patient, mais l'éradication du cancer en général, ça ne se verra pas. Ça, c'est pas possible. Il faut apprendre à développer nos traitements, mais il y aura toujours des cancers. Bon, tout ça, c'était donc dans les années où j'étais encore en activité. Un jour, en 1995, on m'a dit « Monsieur, vous avez atteint l'âge de la retraite, au revoir. » Et puis c'est tout, partez, vous n'avez plus aucun droit chez nous. Donc je suis parti, évidemment. Mais depuis, je fais une consultation deux fois par mois dans un dispensaire à Paris. Donc je ne peux pas hospitaliser des patients puisque c'est un dispensaire. Mmh, mmh. Mais je reçois, je ne sais pas comment les choses se sont popularisées, mais je reçois des patients d'un petit peu partout parce qu'ils connaissent des gens que j'ai traités autrefois, etc. Il est même arrivé à ce dispensaire des Allemands et une fois un Russe. Et je continue donc à traiter des cancers de cette façon. Mais je voudrais dire, alors, ce que j'ai appris et à la fin de mon séjour hospitalier et puis depuis dans ce dispensaire, étant donné ce que la nature a mis au point, c'est-à-dire tout ce que je vous ai expliqué, un système qui se branche dès qu'il y a une difficulté pour une cellule malade à survivre, eh bien comment arriver à le fermer, le faire s'arrêter? Il est clair que pour ça, il ne faut pas compter seulement sur deux ou trois médicaments, il faut ajouter tout ce qui est possible. Bon, la polychimiothérapie avait déjà été un premier niveau, puisque au lieu de donner un médicament puis un autre, on s'était mis tous à donner les trois en même temps, et depuis il y en a plus que trois d'ailleurs. Mais j'ai découvert par mes lectures à l'époque qu'il y a d'autres produits qui ne sont pas des chimiothérapies, mais qui sont efficaces, qui ont une efficacité anticancéreuse. Par exemple, ce qu'on appelle les statines, c'est-à-dire des médicaments qui sont donnés pour faire baisser les taux de cholestérol trop élevés, ont aussi, curieusement, c'est pas moi qui ai découvert tout ça, ça a été découvert dans la littérature petit à petit, ont aussi la propriété de faciliter le suicide des cellules endommagées et donc des cellules cancéreuses. On appelle ça un effet pro-apoptotique, l'apoptose étant le suicide. Bon. D'autre part, il y a des agents antioxydants qui diminuent la capacité des cellules à se donner une vascularisation, alors que les cellules cancéreuses fabrique un produit qu'on appelle vasculo-endothelial growth factor, c'est-à-dire un produit qui fabrique une molécule de vascularisation, Si on donne ces antioxydants, on empêche le cancer de se donner une vascularisation. Donc il faut associer à tous les médicaments « admis » entre guillemets toute une série de molécules qui ne sont pas forcément toxiques, comme celles que je viens de citer, mais qui ajoutent des effets. Il est tout à fait important de s'armer de tous les côtés à la fois pour pouvoir maîtriser, bloquer l'évolution des cellules cancéreuses, voire les tuer. Alors, ce sont des choses que j'avais d'abord expliquées dans ces groupes américains, puis que j'ai publiées à différentes dates, sous différents titres et dans différentes revues françaises et américaines, et qui sont, bon, c'était pas des découvertes magistrales, c'était des aides. L'idée étant qu'il faut, un cancer étant très armé pour se survivre, il faut ajouter tout ce qu'on peut pour le bloquer, voire le tuer. Alors ça devrait être fait, mais alors maintenant, moi j'essaie de publier depuis des années, hein, dans les revues de médecine. On m'a mis à la porte en 76, bon ben je fais mon petit boulot dans le dispensaire, mais je...
Et quand vous dites ça, en fait vous avez subi le traitement qu'on fait subir à tous les professeurs.
Eh ben, exactement.
Malheureusement.
À tous, oui, oui, bien
c'est
entendu.
C'est une aberration.
Et il y a un âge au-delà duquel... Alors c'est d'ailleurs étonnant parce qu'aux États-Unis c'est tout à fait différent. S'ils ne sont pas contents d'un professeur, ils le mettent dehors quel qu'il soit l'âge. Et s'ils en sont contents, ils le gardent quel que soit son âge. Tandis qu'en France, hop, là, 66 ans, j'étais devenu non plus le patron, mais le second pendant 3 ans à l'hôpital que j'avais dirigé. Et puis à 69 ans, j'étais mis carrément dehors. Quoi. Bon, donc effectivement, j'étais pas le seul à qui c'est arrivé. Mais j'ai eu l'occasion de publier quand même quelques papiers sur les effets de toutes les autres petites molécules qui, même sans toxicité, viennent ajouter au traitement officiellement admis et donc augmentent l'espoir de tuer un cancer et donc de le guérir.
Et qu'est-ce que vous pensez de l'insistance qui est apportée aujourd'hui sur la nutrition, à la fois dans le déclenchement du cancer et dans le traitement du cancer ? On parle beaucoup de cela.
Alors, il y a toute une série d'agents qui sont capables de léser des cellules, et une cellule lésée devient plus facilement cancéreuse. Alors, il y a dans tout ça des produits utilisés dans la nutrition, mais qui sont... Enfin, disons, bon, en tout cas, je prends l'alcool et le tabac. Bon, l'alcool et le tabac, eh bien, ces deux-là sont capables de créer des cancers, c'est-à-dire de créer des lésions cellulaires qui vont permettre à un cancer de naître et de défendre ces cellules en les laissant anormales plutôt que de les laisser mourir. Bon, mais alors justement, à propos de ça, se pose le problème de la prévention. Donc, la prévention des cancers, d'une part, comporte le fait qu'il faut s'abstenir sans aucun doute du tabac et de l'alcool. Alors bon, un petit verre d'alcool par mois, c'est pas un problème, mais l'alcool tous les jours, 15 cigarettes tous les jours, etc., ça lèse un certain nombre de cellules et ça multiplie largement les risques de cancer. Par conséquent, la prévention devrait être enseignée à tous les médecins généralistes, et ce devrait être, il faudrait qu'ils conçoivent que c'est leur rôle d'enseigner les gestes de prévention aux patients qui viennent pour n'importe quoi d'autre, parce qu'ils ne verront jamais de médecins spécialistes, sauf quand ils ont un cancer et il est trop tard pour organiser la prévention. Autrement dit, l'assistance publique, mais aussi le ministère de la Santé, etc., devrait prendre les mesures nécessaires pour que la prévention anticancéreuse devienne un geste connu et pratiqué par les médecins généralistes. On ferait un immense progrès dans ce domaine sur les statistiques si c'était adopté. Et par conséquent, j'ai encore jamais écrit ça, mais puisque vous me donnez l'occasion d'en parler, je plaide vraiment pour ça. Et je suis prêt dans ce domaine, si elle le souhaite, à rencontrer Madame la ministre de la Santé.
Et qu'est-ce que vous lui proposeriez concrètement, vous lui diriez ?
Ah, je lui proposerais d'organiser des cours de prévention des cancers dans toutes les facultés de médecine pour tous ceux qui feront de la médecine générale, entre autres, n'est-ce pas ? Et en attendant, d'organiser des cours où viendraient les médecins généralistes, peut-être une fois par mois ou quelque chose, pour aussi leur enseigner comment demander aux patients qui se confient à eux pour une autre maladie, comment leur dire ce qu'il faut faire pour prévenir un cancer, pour le prévenir aussi chez leurs enfants, chez les amis qu'ils connaissent, etc. Donc je serais prêt à défendre ça si elle le souhaite.
Écoutez, nous allons lui transmettre le message.
Eh bien d'accord.
Nous allons le faire.
Et je voudrais ajouter un rôle pour les médecins généralistes. Il y a 4 marqueurs sanguins connus pour les cancers. Je vais les énumérer même si ça n'est pas retenu. C'est pour la plupart des cancers. CA19-9, c'est pour les cancers digestifs. CA125, les cancers de l'ovaire. CA153, les cancers du sein. Eh bien, on peut, par une prise de sang, savoir si ces 4 marqueurs sont dans les limites de la normalité ou si bien l'un d'eux est élevé, ce qui alors indique qu'il y a un risque de cancer et qu'il faut absolument faire les examens nécessaires pour le trouver si même il n'a donné aucun symptôme, parce que c'est à ce moment-là qu'il est plus facile de les traiter. Par conséquent, que ces examens qui relèvent biologiquement et d'une façon très simple l'existence de cellules cancéreuses dans l'organisme soient faits de façon assez systématique, aux adultes en tout cas, peut-être une fois tous les 6 mois, bon c'est à discuter, mais ça serait déjà un grand progrès.
Voilà ce que c'est donc les bases.
Alors voilà pour ce qui est de la médecine.
Pour ce qui est de la médecine. Alors monsieur le professeur, nous avons consacré déjà les 2/3 de l'émission donc à ces thèmes-là. Donc je vous propose de sauter quelques-unes des autres questions.
Écoutez, ça tombe bien parce que je suis pas sûr d'avoir des réponses à vos questions.
Écoutez, je vais vous poser quand même une question à laquelle vous allez peut-être me dire que vous n'avez pas de réponse, mais je voudrais quand même vous la poser. Quel a été le plus grand échec de votre vie ?
Écoutez, oui, vous m'avez déjà parlé de cette question.
Et vous m'avez dit, je n'en ai pas connu.
Eh bien, c'est vrai, je suis obligé d'ajouter ça. Je me suis interrogé longuement. Si j'avais eu un échec qui m'avait laissé des traces, je l'aurais confessé sans problème. Mais je ne me souviens pas avoir eu d'échec.
Alors je vous repose cette question parce que je voulais simplement vous demander si vous n'avez jamais considéré comme un échec personnel la mort de vos malades. Parce qu'avoir cette expérience quotidienne de la mort, ça doit quand même être quelque chose de...
Oui, mais alors écoutez, il n'y a pas eu de patient qui n'ait pas, dans un premier temps, bénéficié des traitements. Mais il y avait des cas graves chez lesquels on pouvait obtenir soit un blocage de l'évolution, ce qui était déjà pas mal, et en attendant quelques progrès thérapeutiques, et il y en a eu pendant des années, soit un ralentissement et de l'évolution. Et il y a eu, de ce point de vue, évidemment, je n'ai pas guéri tous les cas de cancer que j'ai diagnostiqués ou reçus, parce qu'un cancer, quand il est vu au début en l'absence de métastases et localisé, est beaucoup plus facilement curable. Mais un cancer qui a déjà disséminé et fait des métastases dans plusieurs organes, le poumon, le foie, le cerveau, etc., eh bien, c'est très difficile à guérir. Peut-être qu'un jour, je ne doute pas que pour mes successeurs, un jour, ils pourront dire à leurs patients « c'est pas grave, c'est un cancer ». Mais ce n'est pas encore le cas. Et donc, actuellement, on peut museler, bloquer, ou même faire partiellement régresser des cancers qui, il y a moins de 10 ans, n'obéissaient à aucun traitement. Donc c'est déjà ça, on peut gagner du temps. Et je me rappelle que je disais moi-même à mes patients, écoutez, si on ne vous guérit pas, n'arrêtez pas les traitements, parce que si on bloque, ou même si on ralentit, à la vitesse où vont les découvertes, on pourra vous guérir un jour, alors je vous en supplie, laissez-moi faire. Et jamais personne n'a résisté à ce type de demande.
Alors je voudrais justement parler un moment de vos relations privilégiées avec vos malades. Est-ce que vous vous souvenez du jour où, pour la première fois, vous avez décelé dans le regard d'un malade vraiment en danger cette question, au fond, ou cette attitude à votre égard, vous faisant comprendre qu'il vous confiait sa vie et qu'il s'en remettait totalement à vous? Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez ressenti cela?
Non, j'ai pas de souvenir précis de la première fois, mais j'ai vécu ce genre de choses très souvent. On expliquait aux patients ce qu'on pouvait faire et ce qu'on allait faire dans un premier temps et puis ce qu'on ferait par la suite. Et ils étaient tous très contents d'entendre ça et d'accepter de subir tout ce qu'on leur proposait. Je ne me rappelle pas avoir jamais obtenu le refus d'un patient. Quand on leur expliquait que, bon, c'était pas joué, mais ni dans un sens ni dans l'autre, et que ça valait vraiment la peine de se battre, ils acceptaient de le faire.
Mais quand ils ont cette attitude à votre égard, ça doit vous tirer vers le haut, non ? Ça doit, humainement, on doit se sentir obligé, enfin, quelque part.
Oui, mais vous savez, quand j'ai commencé ces choses-là, j'étais encore très jeune, et je me posais pas du tout de questions sur la signification de ce que je faisais, ni ce qui pouvait se passer dans mon cerveau. J'étais content qu'il marche et on se battait. Mais peut-être que, à la fin de ma vie, je peux me dire qu'en effet, ça a été une étape importante que mon cerveau a subie, c'est possible.
Vous êtes quand même en dehors de la vie commune quand vous avez en permanence ainsi à traiter des cas extrêmement graves.
Ça m'arrive encore, oui, encore que, attention, les patients qui viennent dans un dispensaire, c'est des patients qui peuvent se déplacer, qui ne sont pas hospitalisés. Donc, ils ont des tumeurs moins graves que ceux qui doivent absolument rester dans un lit. Et donc, c'est plus facile d'obtenir la victoire chez eux. Et je suis moins stressé qu'autrefois. Mais en tout cas, oui, j'ai quelques souvenirs qui sont... Et puis, naturellement, ce n'était pas 100% de victoire. Mais tous les patients adhéraient à ce qui leur était proposé pour essayer de vaincre le cancer.
Monsieur le professeur, quelle est aujourd'hui votre motivation essentielle dans la vie ?
Ah, ma motivation essentielle dans la vie. Écoutez, alors, ce serait, ça ne concerne pas que la médecine.
Ah, justement, c'est ce que nous aimerions savoir.
Oui.
L'autre professeur Israël, enfin l'autre Lucien Israël.
Un jour, je suis sorti de ma spécialité pour écrire un livre qui s'appelait « Cerveau droit, cerveau gauche, cultures et civilisations ». Je ne sais pas comment ça m'avait pris, d'ailleurs, je ne me rappelle pas pourquoi. Mais en tout cas, j'ai consulté une masse de livres de mes confrères neurologues et neuropsychiatres, en plus de tous les autres écrivains. Et depuis, je suis resté obsédé par ce qui se passe dans le cerveau. Je ne suis ni neurologue ni psychiatre, mais ce que je crois, hélas, c'est que ni la société, ni même l'école ne font tout ce qu'il faut pour permettre au cerveau de chacun d'arriver au maximum de ses possibilités.
Est-ce qu'il y a une civilisation plus qu'une autre, un pays plus qu'un autre, qui, sur ce plan-là, vous semble avoir mieux perçu la portée de ce problème ?
Non, je ne crois pas. Cela dit, il y a des systèmes qui sont des systèmes religieux et qui ont un effet sur les patients. Je dis ça parce que j'ai eu l'occasion, à cause de mes années de judo, et notamment,
on y reviendra.
Notamment entre les mains d'un professeur japonais, j'ai eu l'occasion de savoir, enfin, d'approcher ce qui se passait dans ces civilisations orientales, sur le Zen en particulier, etc. Comment ces civilisations avaient appris depuis longtemps à donner aux individus qui se laissaient faire le maximum de chances de repos, d'acceptation de la vie et de ses inconvénients, de tranquillité, de bonne volonté pour donner à autrui ce qu'ils souhaitaient aussi qu'on leur donne. Bien, mais c'est tout, je ne suis pas un spécialiste de la civilisation japonaise, etc.
Mais je
crois
que vous êtes ceinture noire de judo.
Ah oui, je suis...
D'où vous est venue cette passion du judo ?
Alors ça, je ne saurais le dire, mais de quelques lectures, mais enfin j'étais tout jeune, et il y avait à l'époque au Racing un japonais, Shozo Awazu. Il paraît qu'il est encore à Paris, j'ai appris ça récemment parce que moi j'ai cessé de le voir depuis très longtemps. Mais il paraît qu'il est encore à Paris, qui m'a pris entre les mains. J'y allais deux fois par semaine pendant des années, il m'a torturé. jusqu'à me donner le deuxième dan de ceinture noire.
C'est quand même assez costaud.
Et puis, j'ai dû arrêter parce que j'avais plus le temps. Je pouvais plus m'absenter deux après-midi par semaine.
Mais il n'y a aucun lien entre cette passion du judo et votre expérience du combat dans la résistance ? Aucun lien ? Parce qu'il faut dire qu'à 18 ans, vous avez participé à la libération de Paris.
Oui, oui, oui.
Vous étiez sur les barricades au Gobelin, je crois.
Absolument, exactement.
Il vous reste des images de ça ?
Oui, il me reste quelques images, à la fois des barricades au Gobelin, mais des bagarres dans le 13e arrondissement, à coups de revolver, ou derrière les barricades, etc. Oui, oui. Enfin, j'étais tout jeune.
Vous aviez 18 ans.
On m'avait envoyé, moi j'étais à ce moment-là avec mes parents à Brive-la-Gaillarde,
réfugié en Corrèze.
Et puis, je me suis fait happer par une organisation qui m'a dit « Allez, il faut aller à Paris », etc. Bon. Alors, j'avais la carte d'identité. J'avais un de mes camarades de Brive, qui était dans la même équipe de football que moi, qui m'a donné sa carte d'alimentation en me disant « Là où je suis né, c'était à Obja, une vingtaine de kilomètres de Brive. Tu y vas avec ma carte d'alimentation, tu dis que tu as perdu ta carte d'identité quand on t'en redonne une avec ta photo. »
Et donc, c'est comme ça.
C'est comme ça que ça s'est passé.
Mais votre sentiment aujourd'hui, donc vous qui avez donc participé là, sur le terrain à la résistance dans ce qu'elle avait de plus beau, votre sentiment sur le débat actuel concernant l'identité nationale ?
L'identité nationale, c'est quelque chose qu'il faut, le sentiment de l'identité nationale, c'est quelque chose qui doit être conféré à l'enfant. De façon qu'ils grandissent avec ça et qu'il n'y ait plus de problème, qu'il ne se pose plus aucun problème plus tard dans sa vie, et cela, quelles que soient ses origines. Comme je l'ai écrit quelque part dans mes mémoires, moi je ne m'en rappelle plus où, j'ai pleuré à l'école pour Vercingétorix et pour Jeanne d'Arc. À l'école, à la fois d'abord la petite école maternelle et puis les premières classes de l'école communale. Donc, ça dépendait des professeurs. Les professeurs des toutes premières classes de l'enseignement doivent jouer un rôle majeur dans ce sentiment d'affection définitive pour la nation dans laquelle on vit, pour son passé, son futur et son présent, enfin pour tout ça. Donc, ça dépend des professeurs des petites classes des écoles.
Mais est-ce que vous seriez prêt à donner quelques conseils à M. Châtel et à M. Besson, comme vous êtes prêt à en donner au ministre de la Santé sur le plan du cancer, sur le plan de l'identité nationale et de ce qu'on peut faire ? Vous seriez prêt à donner quelques conseils aussi ?
Oui, mais je ne dirais rien de plus que ce que je viens de vous dire.
Non, mais l'idée d'un creuset, au fond.
Ah oui, oui, absolument. Leur dire que c'est le moment capital pour que les êtres humains se sentent membres d'un réseau national. Et donc, soit prêt à le défendre, à l'aimer, à le respecter. C'est dans l'enfance que ça doit se faire.
Mais le métissage et le sentiment national, pour vous, ça va ensemble.
Absolument. Mais moi, mes parents venaient tous les deux de Salonique et parlaient entre eux l'espagnol comme les juifs de Salonique, parce que ils étaient là depuis 1492, ils avaient été chassés d'Espagne par Isabelle, et mais ils parlaient l'espagnol de l'époque, mais ils sont arrivés en France tous les deux quand ils avaient 22, 23 ans, chose comme ça. Bon, moi je suis né à Paris, mais bon, voilà. Dans l'école, les petites classes de l'école communale, je suis devenu sans aucun problème complètement français, et mes parents n'ont jamais manifesté quoi que ce soit contre. Au contraire, ils étaient ravis.
Merci de cette belle leçon. Il y a autre chose dans votre univers qui surprend également, c'est la place qu'a tenue la poésie. Je remarque que non seulement c'est une de vos passions, mais vous avez même publié deux ouvrages de poésie. L'un en 1984 avec un très joli titre d'ailleurs, « Face cachée ». L'autre en 1995, « L'oiseau qui retournait dans son pays ». Alors, est-ce que, la question va peut-être vous paraître bizarre, mais est-ce que la démarche poétique est une démarche qui a pu vous être utile dans votre activité de cancérologue ?
Premièrement, je ne me suis jamais posé la question. Donc
c'est pour ça que je vous la pose.
Elle est toute nouvelle. Et deuxièmement, j'aurais des difficultés à y répondre, mais je ne crois pas. Pourquoi est-ce que, après avoir lu, alors mon père m'achetait, me faisait lire des poèmes depuis l'âge de 10-11 ans, ça m'avait donné un goût qui ne s'est jamais arrêté d'ailleurs, et donc pendant mon adolescence, et quand j'étais à Brive-la-Gaillarde, etc., je lisais des poèmes, Et pourquoi ça m'a pris un jour d'en écrire? J'étais adolescent, je ne me rappelle pas ce qui s'est passé, mais j'ai été ravi de faire ça.
Mais est-ce que vous êtes allé chercher dans la poésie les réponses aux grandes questions de la vie ou pas?
Non.
Non, pour vous c'est plus une affaire d'esthétique de...
Oui, absolument.
Si vous permettez, je vais vous poser une question très personnelle.
Oui.
Mais compte tenu de l'attachement que vous avez à tout ce que vous faites et l'attachement que vous avez pour les autres, si vous aviez une leçon à tirer pour les autres de votre propre expérience et de votre propre vie, qu'est-ce que vous nous diriez?
Je ne sais pas, il y a une chose que je ne sais pas, c'est est-ce qu'on peut changer les sentiments et les comportements d'un adulte? Ça, je ne sais pas. Ce que je dirais, c'est l'importance de l'école, l'importance de veiller à ce que les enfants fassent une vraie scolarité, mais l'importance aussi que les instituteurs et les institutrices sachent ce qu'il en est, l'importance que ça peut prendre dans l'évolution de tout être humain et comment il faut leur donner le sens du beau, le sens du bon, le sens du laid, etc.
Et tout ça se joue très vite.
Et le cerveau, il faut qu'il soit pris entre les mains très tôt pour pouvoir continuer après et pouvoir s'instruire au reste de la vie. Si pendant qu'on est enfant, on les laisse tomber sans rien faire, après ils ne le feront pas, il sera trop tard.
Ça c'est le début de la chaîne, il y a l'autre bout de la chaîne. Vous-même, vous envisagez la perspective de la mort avec sérénité?
Oh bah complètement, oui. Plus exactement, je sais que j'y échapperai pas. Par conséquent, j'y suis prêt depuis longtemps. Ce que je ne supporte...
C'est quoi être prêt?
Oh bah c'est-à-dire, si un jour je suis... dans une situation suffisamment dangereuse pour savoir qu'il n'y a rien à faire et que je vais en mourir, eh ben je ne verserai pas de larmes et je ne pleurerai pas sur moi. Je sais que c'est possible, etc. Et puis c'est tout. Mais je crois qu'il faut... Si on a le sentiment d'avoir fait ce qu'on souhaitait faire dans sa vie, et si on n'a rien de majeur, si on n'a rien fait de dangereux ou de mauvais, quelque chose d'important et qui vous ennuie pour le restant de votre vie, on meurt sans problème, je crois. Il faut bon, savoir. Cela dit, si je suis vraiment malade, je me mettrai entre les mains de mes confrères. S'il y a un moyen de rester plus longtemps, très volontiers. S'il n'y en a pas, eh bien je m'incline.
Là, c'est une forme de sagesse quand même. Je pensais à vous écouter, puisque vous adorez la poésie, et je me demande si ça ne pourrait pas être la maxime de votre vie, au fond, en vous écoutant. Ce que disait René Char, « Aime ton destin, serre ton bonheur et va vers ton risque ».
C'est parfait. Oui, j'avais lu ça, mais je l'avais oublié, mais je suis entièrement d'accord. C'est très très bien. Mais pour qu'on puisse se donner à soi-même ce que vous venez d'indiquer, il faut qu'on ait un cerveau qui ait été bien préparé. Et ça, ça dépend des parents et des premiers instituteurs et professeurs. Et c'est absolument décisif. Est-ce qu'on donne à tout être humain la capacité de monter au plus haut niveau possible? Malheureusement pas, et c'est dommage. Les parents, mais aussi les apprenants, ont un grand rôle à jouer dans ce domaine.
Voilà, vous avez encore du pain sur la planche et du travail à faire. Ainsi s'achève cet essentiel avec donc le professeur Lucien Israël, grand nom de la cancérologie, mais également précurseur sur bien d'autres plans et membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Je vous signale d'ailleurs que vous pouvez télécharger sur Canal Académie deux autres émissions réalisées avec le professeur Israël, des émissions très demandées, l'une sur cerveau droit, cerveau gauche, on l'a évoqué un tout petit peu, et l'autre, regard sur l'euthanasie. Cela, on ne l'a pas du tout abordé parce que c'est un sujet tellement sérieux qu'on ne peut pas l'aborder comme ça en trois minutes.
Non, mais on l'avait abordé ensemble, en effet.
Monsieur le professeur, merci.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Merci, et merci à tous et à toutes d'être avec nous.